Merci d'écouter Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. C'est l'heure de parole révélée en compagnie du révérend docteur Dio Yaye Robert. Sujet abordé, la mission de Christ. La mission de Christ. Bonne écoute à tous.
Expliquer mieux pourquoi nous organisons ces grands programmes qui rassemblent des milliers de personnes, nous allons voir la mission de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus est-il venu? La mission de Christ. Vous savez, on parle toujours de mission. Mission diplomatique, mission scientifique, mission secrète, etc. Mission officielle, mission scientifique dans ce monde. Lorsqu'on confère une autorité à quelqu'un et qu'on l'envoie exécuter quelque chose, alors dit-on que cette personne est en mission. Est en mission. Et tout chrétien véritable, je dis bien véritable chrétien, régénéré par Jésus-Christ, sauvé, est envoyé en mission pour accomplir la parole et à travers lui, Dieu veut confirmer ses promesse. Donc, nous avons reçu une mission. Je voudrais d'entrée que vous puissiez lire avec moi un passage pour comprendre clairement. 2 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament pour les frères, les sœurs qui sont nouveaux. Voici ce qui est écrit. Verset 17, nous le lisons ensemble. Allons-y. Continuez au verset 18. Bon, qu'est-ce que nous faisons, le verset 20? Merci bien. Nous faisons quel rôle? Le rôle d'ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a eu délégation de pouvoir auprès d'un autre pays, n'est-ce pas? Nous avons dans notre pays plusieurs ambassades. Ambassade de France, ambassade des États-Unis, ambassade Burkina Faso, ambassade de Tunisie, du Maroc, etc., etc. Il y a plusieurs missions et ces ambassades sont appelées des missions diplomatiques. C'est la diplomatie. Mission diplomatique. Mission de réconciliation. Parce que qui parle de diplomatie parle de réconciliation, n'est-ce pas? Une ambassade joue le rôle de missionnaire d'un État auprès d'un autre État pour permettre, n'est-ce pas, la réconciliation, pour permettre une conciliation entre les deux pays dans tous les aspects, aspects culturels, économiques, etc., etc. En quelque sorte, une mission diplomatique essaie de mettre les points de vue ensemble. C'est ça. Et vous voyez, le véritable chrétien, l'Église, est une ambassade pour permettre la réconciliation. Vous voyez, Jésus-Christ étant le chef de la diplomatie divine. N'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Pour permettre quoi? Qu'est-ce que nous lisons là? Car Dieu était en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu fait à travers Jésus? réconciliant le monde avec lui-même. Et lorsque nous recevons Jésus en nous, qu'est-ce que nous faisons normalement? Nous réconcilions le monde avec Dieu. C'est-à-dire, nous invitons le monde. Le monde vient vers nous. En venant vers nous, ils viennent vers Jésus. Nous ne sommes pas Jésus, mais en nous se trouve Jésus. Nous sommes temple de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes viennent à nous et qu'ils reçoivent la parole que nous donnons au nom de Jésus-Christ, alors nous disons qu'ils entrent en Jésus-Christ. C'est-à-dire, s'ils entrent en Jésus-Christ, ils rencontrent Dieu, puisque Dieu ne se trouve pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. Alors, la réconciliation a lieu. Et c'est ce ministère-là qu'on appelle la mission de Jésus-Christ. Et une église qui ne fait pas cela, cela veut dire que cette église-là est infidèle à la mission. Nous allons voir en détail donc les aspects de la mission de Christ. Christ n'est pas venu fonder une religion. Christ est venu communiquer la vie, la réconciliation des hommes avec Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a vraiment rien à voir avec la religion. On peut être un bon religieux et aller en enfer. On peut être un bon baptiste et aller en enfer. Un bon catholique et aller en enfer. Un bon méthodiste et aller en enfer. Un bon membre des assemblées de Dieu et aller en enfer. Si on n'accomplit pas la mission fidèlement, selon les normes. Donc, ce n'est pas le fait d'être membre d'une église qui compte, c'est qu'est-ce que je fais en tant qu'ambassadeur pour Jésus-Christ. Qui a vraiment pitié de celui qui n'a pas Jésus? Qui a déjà pitié vraiment? Nous avons tous été hors de Jésus. Nous savons les souffrances qu'il y a. Nous savons les peines qu'il y a. Donc, si tu sais que c'est vraiment pénible d'être sans Christ, c'est tout à fait normal de faire la commission de Jésus. Il nous a confié une mission, une commission. Va faire la commission. Dis aux hommes, Jésus t'aime. Il t'invite. Viens, tu vas le recevoir. Voilà. En quoi se résume notre mission et la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli une mission divine. Nous allons voir donc, comme je l'ai dit, les quelques aspects. D'abord, on parle de la première venue de Jésus. À quel moment Dieu a annoncé la venue de Jésus? À quel moment? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Regardez Genèse 3, le verset 15. Voilà la mission même de Jésus. Lorsque la relation de l'homme avec Dieu avait été rompue par le péché, alors Dieu a promulgué un décret pour élire du ciel un missionnaire. La Bible dit dans Apocalypse, Dieu a regardé tous les anges. Aucun n'était capable. Aucun. Même Michel, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, qui va rompre le sceau, qui va ouvrir le décret. La parole est sortie de l'Éternel. Il fallait quelqu'un. Mais qui? Il a fallu Jésus-Christ. Qui a dit, Père, je peux aller. Ah, c'était une mission dangereuse. Une mission vraiment dangereuse. C'était la guerre. C'est de déclarer la guerre à l'ennemi de Dieu. À l'ennemi des hommes. C'est pourquoi, vous voyez, la venue de Jésus n'a pas été facile. Regardez, Genèse 3, 15. Allons-y. Voilà. Dieu parle à qui ici? À Satan. Il dit, je vais mettre inimitié. Déjà, le décret est là. Je mettrai inimitié. Puisque tu as trahi, puisque tu as entraîné ma créature, mon image, dans le mal, alors quelque chose va se passer. Je vais mettre conflit, inimitié, haine, voilà, entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc, Satan a une postérité. Qui sont ceux qui suivent Satan? C'est les anges déchus, qu'on appelle aujourd'hui les démons ou bien les mauvais esprits. Lucifer lui-même, est-ce qu'il n'était pas un ange? Est-ce qu'il n'est pas un esprit? Mais derrière lui, il y a toute une postérité, toute une multitude d'anges qui l'ont suivi et qui se sont constitués en ennemis de Dieu, C'est pourquoi ce Lucifer a été appelé comment? Satan, qui veut dire quoi? Adversaire. Donc tous ceux de ces esprits qui étaient derrière Satan sont devenus adversaires au service de Satan. Contre qui? Contre Dieu. Et contre les hommes. L'homme sort de Dieu. Et maintenant, Dieu dit, puisque tu es venu, tu as pris en otage les hommes, j'enverrai la postérité d'une femme. C'est l'annonce normale de quelqu'un qui va naître d'une femme, pas d'un homme. Il n'a pas dit la postérité d'un homme. La postérité d'une femme, c'est unique en son genre. En fait, chacun de nous est postérité d'un homme, n'est-ce pas? C'est un homme qui s'est marié pour donner naissance à des enfants que nous sommes. Au commencement était quoi? La parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole qui était en Dieu au départ a été faite quoi? Chair. La parole qui est esprit là, a été mise dans l'ovule d'une femme. Et la parole a pris la forme humaine que la Bible appelle postérité de la femme. Et la mission de cette parole incarnée qui est devenue homme. Pourquoi on dit Jésus est homme, mais il est Dieu. Il est Dieu, mais il fut homme. Il y a son humanité et il y a sa divinité. Il est homme, Dieu. Cette postérité est venue déclarer la guerre à qui? À Satan et à sa postérité, les démons. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi l'évangélisation, c'est la guerre. Donc, lorsqu'une église se dit une église de Jésus, elle doit normalement accomplir cette mission. Être en conflit avec Satan. Être en inimitié avec Satan. Ne pas être d'accord avec Satan. Ne pas permettre que Satan demeure au milieu de nous. Dites-moi, est-ce qu'il ne peut pas rentrer au milieu de nous? Il rentre là, mais nous avons l'autorité pour le mettre dehors. Amen. Il y aura inimitié. Donc, la mission d'évangéliser, de proclamer la bonne nouvelle, consiste simplement à amener les hommes des ténèbres de la main de Satan à les mettre dans la main de Dieu pour qu'il y ait réconciliation. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, regardez sa venue. Est-ce que ça a été facile? Quand Satan savait qu'il allait venir, annoncer 6000 ans avant, 6000 ans après, la parole là que nous venons de lire s'est accomplie. Et quand ça s'est accompli, une vierge fut tombée enceinte, c'était déjà un grand mouvement dans le camp du diable. Et quand cet enfant fut né, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a possédé le roi de cette époque-là. Comment il s'appelait? Hérode. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré la guerre au bébé. Regardez, un roi qui déclare la guerre au bébé. Vous ne voyez pas que c'est drôle? Qu'est-ce qu'un bébé peut faire? Et il dit, tuez tous les bébés. Puisqu'on ne sait pas lequel qui est Jésus là, tuez-le. On pense que c'est Hérode, mais c'est les démons à travers Hérode. Hérode n'était pas chrétien, il était possédé. Satan l'a possédé pour tuer Jésus. Déjà, étant bébé, la guerre a commencé. Tous les enfants de la même période ont été égorgés. Mais Dieu veillait. Dieu a dit à Joseph et à Marie, fuyez. Voilà ce qui se prépare. Fuyez. Allez en Égypte, en Afrique du Nord. Et c'est là-bas, le bébé s'est réfugié. Jusqu'à ce que Hérode meure. Et Dieu dit, bon, allez-y maintenant. Et déjà, à l'âge de 12 ans, tout ce que Jésus a commencé de faire, regardez les conflits qu'il a eus. Il a libéré les gens et on a dit, crucifiez-le. Il a guéri, il a nourri. C'est-à-dire qu'il a répondu à tous les besoins des hommes. Et finalement, il fut mis à mort. Et là encore, Dieu l'a libéré de la mort. Amen. Dieu l'a libéré de la mort. Et après la mort, il a dit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Ô mort, où est ta victoire? La mort est le démon le plus puissant, mais Jésus l'a vaincu. Pour l'humanité, il y a possibilité de sortir de la mort vivant, sans crainte. La mission fut accomplie à la croix. Il a dit, tout est Toute la mission est accomplie. Les miracles ont été faits. Les malades ont été guéris. Les démons chassés, etc. Jean-Baptiste a demandé, quel est le signe que vraiment tu es le missionnaire de Dieu? Jean était en prison. Jean voulait être sûr. Est-ce que c'est gratuitement qu'on va couper ma tête ou bien vraiment c'est toi? Et Jésus dit, allez-y, dis à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les démons sont chassés, les pécheurs se repentent, voici le signe, hein? Le royaume de Dieu est prêché. Dites à Jean que effectivement c'est moi, il va mourir mais il ne meurt pas pour rien, c'est moi. Et cette mission, il confie à l'église. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui vont accompagner. Ces signes-là ne sont que les éléments qui rentrent dans le cadre de la mission. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. Ils vont ressusciter les morts. Ils purifieront les lépreux. Voilà donc le résumé de la mission. Et ça, c'était sa première venue. On parle de sa seconde venue. On verra ça plus tard. Mais sa première venue, c'était pour quoi? Donc, s'il est venu et il a fait cela, que devions-nous faire? Quelle mission avons-nous donc? La mission de Christ est unique en son genre. Il est venu pour sauver l'humanité. Est-ce que nous aussi, nous devions perdre l'humanité? Est-ce que nous devions égarer les gens? Il faut les sauver. Il faut sauver l'humanité. Le mot humanité vient de quel mot? Humain. Humain vient de quel mot? Homme. Homme veut dire quoi? Sorti des êtres, des esprits sortis de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes le souffle de Dieu. Dieu a soufflé et nous sommes devenus quoi? Esprit vivant, âme vivante, dans un corps. Nous sommes dans un corps. Et nous devions être sauvés. Et quand quelqu'un n'est pas encore sauvé, son esprit est encore sous la domination du diable. Allez-y, sauvez l'humanité. Libérez l'humanité. Voilà donc. Maintenant, comment cette mission doit-elle s'accomplir? D'abord, il n'est pas venu pour juger. La première venue là, ce n'est pas pour juger. Nous aussi, nous ne devions pas juger. Qui devions-nous juger? Les anges déchus, les démons. Déjà, on peut les mettre dans l'abîme. En attendant que Christ lui-même s'occupe d'eux. Nous pouvons les lier, n'est-ce pas? Nous pouvons les chasser. Mais qui devons-nous encore juger? Entre nous. Ce n'est pas jugement qui est calomnie. Non. Si un frère a péché, on va vers lui. Et on l'amène à la repentance. Ça, c'est un genre de jugement. Mais ce n'est pas condamnation. Jésus n'est pas venu pour condamner. Première venue, c'est pour sauver. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si vous allez dans un village et vous voyez un vieillard ou bien vous voyez quelqu'un avec tous ses fétiches, il dit, toi là, tu es condamné. Tu as les fétiches, tu es condamné. Est-ce que ça, tu as accompli la mission de Christ comme ça? Non. Tu juges. Ce n'est pas l'évangélisation. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Ou bien on dit, bon, il y a la retraite au stade, allez-y. Et tu rentres dans un bar, tu trouves les gens qui sont en train de boire. Ils n'ont pas d'autre chose que de faire ça. Puisque pour le moment, ils sont appelés païens. Bon, ils doivent vivre leur vie païenne. C'est normal. Ça fait partie de leur vie. Tu les regardes jusqu'à, tu dis, mon vieux, vraiment. Vous êtes perdus, quoi. Et tu mets deux bras bien comme ça aux hanches. Et tu marches dans le bar, tu dis, vous tous, vous irez en enfer. Est-ce que c'est ça l'évangélisation? C'est pas cela l'évangélisation. Ou bien tu attrapes quelqu'un, un voleur, on le soupçonne de vol, tu le prends, tu dis, envoie-moi ma manchette, on va couper son bras. Ça, il faut qu'on le juge. Comme ça, il va se repentir. Est-ce que ça, c'est l'évangélisation? Non. Donc, voyez, Jésus n'était pas venu pour juger sa première venue là. Quand quelqu'un rencontre Jésus pour la première fois, celui en qui se trouve Jésus et qui communique la vie de Jésus ne doit pas être un homme qui juge. Jésus va vers lui pour la première fois. Jésus va dans l'intention de le sauver, pas de le juger. Il n'est pas venu pour juger pour sa première venue. Il est venu pour sauver. Regardez Jean, le chapitre 3, verset 17.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Voilà, le décret qui a été formulé depuis le jardin d'Éden. Puisque l'homme était pris captif, à partir du moment où Adam et Ève ont désobéi, ils ont donné la clé de la vie à Satan. Satan commence à régner sur l'homme. L'homme n'a plus la vie. Il faut arracher la clé de la vie qui est l'obéissance à Satan. C'est pourquoi Jésus est venu, il a obéi jusqu'à la mort. Il a arraché la clé. Et nous devions communiquer l'obéissance aux hommes pour qu'ils puissent avoir la vie. Ce n'est pas la guerre avec les hommes. Nous avons la guerre avec Satan, pas avec les hommes. Est-ce que c'est clair? Le verset 11 de Jean 8.
Regardez. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
Voilà, il s'agit ici d'une femme adultère, prise en flagrant délit. Les gens cherchaient à la lapider, à la tuer. Ça, c'est leur principe. Pour l'homme, il faut tuer. Il oublie facilement lui-même ses péchés. Quand l'autre commet un petit péché, alors il faut tuer. Chacun avait les gros cailloux là dans les mains. Derrière une pauvre femme, dans les rues de Jérusalem. Elle a couru, en tout cas elle a couru. Et les hommes sont méchants. Heureusement, elle savait qui était Jésus. Elle savait l'influence de Jésus. Elle savait qu'en Jésus, il y avait Dieu. Elle est allée se jeter aux pieds de Jésus-Christ. Elle était là. Jésus ne s'occupait même pas de ces gens. Cette femme-là méritait la mort plus que eux. Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, il jette le premier la pierre contre cette femme. C'est une parole que l'Esprit utilise. Un à un. Chacun pense. Dieu lui-même, il commence à convaincre. Et dans le quartier de Jérusalem-Est, en 1938, là, toi, tu avais commis adultère avec la femme de quelqu'un d'autre. Hein? Dans le magasin de ton patron, là, tu as volé trois morceaux de sucre. Chacun a commencé à voir. Et les pierres ont commencé à tomber. Tous les cailloux là sont restés là. Et ils ont tous disparu. La pauvre femme est là. Et Jésus dit, moi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est la première rencontre. Il n'y a pas de condamnation, il y a moyen de salut. Amen. Moyen de salut. Beaucoup n'acceptent pas Jésus aujourd'hui à cause de la mauvaise façon d'évangéliser de ceux qui se disent chrétiens. Il y a des gens qui vont dans les régions et ils disent aux gens, allez, vous là, vous adorez les cellules. Moi, je suis chrétien. Je vais manger vos cellules et puis c'est fini. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est comme ça que Jésus a fait? Je m'en fiche de vos forêts sacrées. Allez, les enfants chrétiens, chrétiens jusqu'à la mort, prenez les haches, abattez leurs arbres. Ce n'est pas comme ça que Jésus a fait. Non. Ça là, c'est un danseur de masque au village. Allez-y prendre un morceau de bois qu'il a taillé, qu'il porte là, allez brûler. Est-ce que c'est comme ça que Jésus a fait? Non. Si les danseurs de masque, montre-lui, tu es évangéliste. Jésus est venu vers lui pour la première fois. Montre-lui comment toi tu étais. Sois témoin. Montre-lui ce que Jésus a fait. Montre-lui clairement, avec sagesse, avec amour, que ça, voici ce que dit la Bible. C'est simple. Je me souviens, l'un de ces missionnaires qui m'a baptisé, il s'appelle M. Runyan, le docteur Runyan. Il était au Nigeria. Ils étaient en campagne d'évangélisation quand il est rentré dans une cour. Et il y avait là un type qui avait tellement de fétiches. Bon, comme c'est un Américain, il a dit, bon, mais ces choses-là, est-ce que tu peux nous vendre cette statue-là? C'est tellement bien, c'est un art. On peut mettre ça dans la maison. Vous voyez, les Blancs, eux, ils ne comprennent pas que derrière, il y a des dangers. Ils veulent toujours payer les mauvaises choses. Et le type dit, comment? Toi, tu vas payer mon Dieu. Il a dit, ah, pardon si c'est ton Dieu, pardon. Eux, ils sont partis. Mais derrière, l'Esprit de Dieu a commencé à parler à cet homme. Tu vois, si quelqu'un vient, il dit, il va payer ton Dieu là. Est-ce que ça, c'est un Dieu? Est-ce que ça, c'est vraiment un Dieu? Et le type a pris les plus grosses statuettes qu'il adorait là. Dans les deux bras, il a couru derrière les missionnaires. Il a dit, ah, quand tu as dit de payer là, quelque chose m'a dit que, est-ce qu'on peut payer Dieu ça? Si tu m'as dit que tu dois payer là, c'est que ce n'est pas Dieu. Donc, tiens, cadeau, je me débarrasse de ça, je vais aller à l'église. C'est comme ça qu'il a été gagné à Jésus-Christ. Il ne l'a pas condamné, mais simple parole. Dieu lui-même, qui est Saint-Esprit là, a utilisé la parole pour circoncire le cœur de cet homme. Est-ce que vous comprenez bien? La mission de Jésus dans sa première venue, c'est pas de juger, mais c'est de sauver. Amen. Nous allons lire un autre passage. Jean 8, 44.
Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Voilà. À certains endroits, il leur dit clairement, vous avez pour père le diable. Quand ils sont en train de faire une œuvre qui vraiment fait atteinte à la vie, vous avez pour père le diable. Ils cherchaient à tuer Jésus. Jésus était donc dans l'obligation de leur dire ce qu'ils sont. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, me tuer. Vous voyez? Et à certains moments, l'esprit amène les hommes à la conviction du péché, en leur montrant ce qu'ils sont en réalité. Nous allons voir un autre passage. Jean 7, 6 à 7.
Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises.
Voilà. Et vous allez voir, puisque vous êtes enfant de Dieu et vous proclamez la parole, vous proclamez la vérité, le monde ne va jamais vous aimer, puisque le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. C'est pourquoi il y a la persécution. Où qu'un enfant de Dieu véritable se trouve, sa vie gêne toujours, sa vie va gêner. Il sera persécuté, on dira de lui des mauvaises choses. Tout chrétien véritable, toute église véritable, qui veut mettre à nu les œuvres du diable, sera toujours attaqué. C'est normal. Parce que ça fait partie de la mission de Jésus-Christ. La vie même d'un véritable chrétien est un dérangement pour tout un quartier. Tout un quartier peut se révolter contre un seul chrétien à cause de sa vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout un village peut refuser de recevoir même un chrétien à cause de sa vie. Parce qu'ils savent que lorsqu'il sera là, les ténèbres vont fuir. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans les ténèbres, sorcellerie, tout ça, ça va être mis à jour. Et le contact d'un véritable chrétien avec un non-chrétien, ça met toujours mal à l'aise le non-chrétien. Il se voit toujours gêné. Ça fait partie de la mission de Jésus. C'est pourquoi nous devions demeurer dans la vérité. Ne soyons pas des chrétiens à califourchon. Dans le temple, on est chrétien très bien. Et dehors, pour plaire aux gens, on se fait un peu comme au monde. Et il n'y a pas la lumière qui brille. Si aujourd'hui, la puissance de Dieu n'agit pas dans la société des hommes, pour que des multitudes se convertissent, c'est parce qu'il y a trop de faux chrétiens qui font semblant d'être chrétiens, mais leur vie ne démontre vraiment pas la vie de Christ. Ils ne vivent pas Christ. Ils ne sont véritablement pas des témoins de Jésus-Christ. Ils sont dans la compromission. Ils aiment venir à l'église. Oui, ils peuvent venir à l'église tous les jours, mais quand ils sont dans la société, compte tenu de l'influence de la société, alors ils se conforment au monde. C'est pourquoi il est dit que pour que la lumière brille et que la vérité soit connue, il faut que les enfants de Dieu ne se conforment pas au siècle présent. Un chrétien, une chrétienne qui a une conduite différente dans le temple parmi les chrétiens, et puis quand il est dehors, il a une autre conduite. Il utilise mal le verset biblique qui dit « Quand je suis avec les Grecs, je me fais grec. Quand je suis avec les Juifs, je me fais juif. » C'est-à-dire quand je suis avec les païens, alors on boit, on danse, on saute, on commet impudicité. Quand je suis avec les chrétiens, on loue comme les anges. Mais comment la vérité sera connue? Et beaucoup, c'est comme ça. Ils lisent la Bible, mais ils ne veulent pas pratiquer. Ils cachent la vérité. Un des aspects de la mission de Jésus, c'est de dévoiler les ténèbres. C'est de vivre la vérité, quel que soit ce que ça peut nous coûter. Et évidemment, si vous vivez la vérité, vous serez haï, méprisé, calomnié, brimé. On ne va pas vous respecter. Mes soeurs, on va vous dire que vous n'êtes pas à la page. Vous n'êtes vraiment pas à la page. Vous êtes dépassé. Vous vivez comme des vieilles femmes. Mais c'est la vérité. C'est ce que dit la Bible. Nous vivons comme les vieilles femmes. C'est pourquoi nous n'avons pas de sida. C'est tout. Qui peut convoiter une vieille femme? Est-ce qu'on peut siffler derrière une vieille femme? La vieille femme a fini avec la vie. Sa préoccupation, c'est l'au-delà. Alléluia! C'est tellement clair. Et il y a des faux chrétiens, faux chrétiennes, fausses chrétiennes, qui se disent chrétiennes. Elles lisent bien la Bible, ce que Dieu enseigne à propos de comment manifester sa gloire à travers leur vie, à travers leur conduite, leur habillement et tout. Corps, âme, esprit. Mais il dit non, ma foi c'est dans le cœur. Moi, ma foi c'est dans le cœur. Hein. Vous, votre affaire là, vous exagérez trop. La foi c'est dans le cœur. Le cœur c'est quoi? Le cœur là c'est quoi? Ta foi c'est dans le cœur. Jésus est venu, il a manifesté la vie de Dieu. Il a manifesté la vie de Dieu. Il a dit, si en tant que Jésus, dans une chair humaine, vous ne me croyez pas, croyez quand même à ce que je fais. Voyez les œuvres de Dieu à travers ma vie. Alors, quelqu'un qui ne veut pas obéir, cache la vérité et le jugement de Dieu est contre lui. Parce que tu as caché la vérité à cause de la gloire humaine pour chercher à plaire aux hommes. Donc, voyez, Jésus, l'un des aspects de sa mission, c'est d'amener les hommes à la conviction de leur état de péché, leur état d'immoralité, leur état de perversion, par notre vie, notre conduite, par l'évangélisation et par l'enseignement. Est-ce que c'est clair? Troisième aspect de sa mission, c'est de persuader les hommes, de les amener à la persuasion. Parce que l'homme a besoin d'être persuadé. Il est dans le doute. Il est toujours dans le doute. Il est là, il dit, ah, que sera demain? Que sera demain? Que suis-je? Où vais-je? Que sera mon lendemain? Qui suis-je? Qui sont ceux qui sont autour de moi? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Etc, 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 etc. C'est des tourbillons. Et Jésus est venu pour persuader. Pour persuader. Pour amener les gens à la conviction de leur relation avec Dieu et les persuader de la réalité de la vie du Père qui est prêt à les secourir. Lisons un peu Luc, le chapitre 5, verset 8.
Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. »
Bon, par ses œuvres, Jésus venait de faire une œuvre merveilleuse. Simon, il avait une entreprise de pêche. Il est allé pêcher, ils n'ont rien pris toute la nuit. Et le matin, c'était après la résurrection de Christ, Jésus se présente. Il dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils ont dit, on n'a rien pris. Et Jésus dit à Simon, avance un peu ton bateau en profondément. Il dit, non Seigneur, on a pêché là toute la nuit, on n'a rien pris, il n'y a rien là. Même un goujon, on ne peut pas trouver là. Il dit, jette le filet du côté là, jette le filet. Il dit, bon, puisque c'est toi qui as parlé, ça c'est très important, puisque c'est ta parole, sur ta parole, je jette le filet. Il a jeté le filet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Simon ne pouvait plus retirer le filet parce que le filet était rempli de gros poissons. Par ce miracle, Simon a vu la sainteté de Christ. Les miracles que Jésus fait là, c'est pour amener les gens à la persuasion. beaucoup d'églises comme ça qui n'ont aucune vie de Christ. Jésus n'est même pas là, il est à la porte. Les gens restent même chose. C'est des sorciers qui sont dans l'église, du pasteur jusqu'au derrière. Où allons-nous? Sorcier va bouffer pasteur. Un homme qui est du royaume céleste pour communiquer, qui a reçu la mission divine, ambassadeur de Jésus-Christ. Que sorcier sur la terre bouffe? Vous voyez? Quelle est la raison? C'est parce que justement, il n'y a rien qui puisse persuader les gens de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. On peut parler du démon sans savoir qui il est. Toujours Jésus à la croix. Il n'est pas encore sorti de la croix. Il est là à la croix. On peut fabriquer une grosse croix là. On met un certain Jésus dessus. On dit voilà votre Jésus. Mais quelqu'un qui est là cloué à la croix, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut donner même des croix aux gens. Mettre au cou. Quand tu es en danger, mettre dans ta bouche. Il faut sucer un peu. Vraiment, où allons-nous? Jésus n'est plus à la croix. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Et il dit, je suis avec vous. Étant Dieu, il est au milieu de nous. Il dit, je suis avec vous et je vais me manifester. Si vous permettez et que vous obéissez à ma parole, je suis en vous. Quand vous allez prêcher, je ferai en sorte que des signes se produisent. Des prodiges, des miracles, guérissez les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, renvoyer libres les opprimés. Et ainsi, vous allez amener à la persuasion des hommes que je suis encore leur Dieu, que je suis vivant. C'est ça la persuasion. Les miracles que vous voyez, les délivrances que vous voyez, c'est pour nous amener à la persuasion que Dieu est vivant. Au siècle des siècles, et lorsqu'on l'invoque, il répond encore plus clairement que possible. Un autre aspect du ministère de Jésus-Christ, c'est d'amener les gens à la conversion. Le but de Jésus, c'est d'amener les hommes à la conversion. Dans Actes 3, 19.
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés.
Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de repentance. C'est-à-dire quoi? Par le péché, vous êtes confronté à la sainteté de Dieu. Vous êtes opposé à Dieu par le péché. L'orgueil. Péché, c'est manifester l'orgueil. Parce que la rébellion, en fait, c'est l'orgueil. C'est la manifestation de l'orgueil. Le péché, là, c'est la manifestation de l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. S'il n'y a pas de repentance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'humilité. La repentance, c'est un acte d'humilité. C'est-à-dire, puisque tu as péché, tu as grimpé contre la volonté de Dieu, redescends. Reprends la pente, descends. Reconnais-toi tel que tu es, alors tu seras éclairé et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Donc, Jésus amène les hommes à la conversion. Et il n'y a pas de conversion sans repentance. Quatrièmement, il est venu pour quoi? Pour les amener à la conversion. Il faut amener les hommes à la conversion, pas à une religion, mais à Jésus-Christ. Les amener à obéir à la parole de Dieu. À être des disciples, des personnes disciplinées, amenées à la discipline. Et ça, c'est une rigueur. Quand vous êtes dans une église où on ne vous amène pas la discipline, on vous laisse faire ce que vous voulez, vous êtes libre. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Allez faire de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes soumis à la discipline. Des gens disciplinés. Mais si on vient dans l'église, il y a le désordre. Chacun vit comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Dans ce cas, ce n'est pas l'église du Seigneur. Ça ne reflète pas alors le ciel. Au ciel, il y a la discipline. Il y a l'obéissance. Il y a la discipline. Il n'y a pas la rébellion. Il n'y a pas le laxisme, il n'y a pas la licence, il y a la discipline. C'est pourquoi, puisque Satan est dans le monde, il a entraîné les hommes à la rébellion, au désordre, au paganisme, alors il faut amener les hommes à la discipline. C'est pourquoi le mot païen, ce n'est pas forcément pour ceux qui sont dehors, qui ne sont pas dans l'église. On peut être dans l'église et continuer d'être païen, tant qu'on n'a pas accepté la discipline du Seigneur. La soumission au Seigneur. On est encore païen. Donc, Jésus est venu amener à la discipline, à la conversion, les hommes et les femmes. Pour permettre que les hommes attendent sa deuxième venue, il faut vaincre l'incrédulité. Les hommes de nos jours sont incrédules, très incrédules. Ils ne veulent pas croire. Regardez un passage. Dans Hébreux chapitre 3, verset 12.
Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.
Qu'est-ce qu'il a dit là? Prenez garde, frère. Prenez garde. Nous sommes mis en garde parce que nous attendons la deuxième venue de Jésus. Le salut est prêché de nos jours. Jésus est venu mettre la fondation. Il a confié la mission apostolique. L'apostolique vient du mot apôtre. Apôtre veut dire quoi? Envoyé. C'est missionnaire. Chacun de nous est un missionnaire. Tu es un missionnaire, je suis un missionnaire. Il y a des missionnaires à plein temps et il y a des missionnaires à mi-temps. Tous les laïcs, tous ceux qui sont assis là, sauf ceux qui sont à plein temps, où que vous vous trouvez, vous êtes les missionnaires de Jésus-Christ. Et la première venue, c'est pour faire asseoir la mission de réconciliation d'avec Dieu. Et nous attendons sa seconde venue. Et pour cela, ceux qui attendent sa seconde venue doivent prendre garde pour ne point retomber dans l'incrédulité. Qu'est-ce qui est écrit là? Nous lisons Hébreux 3, 12. Il est dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Comment est-ce qu'on peut se détourner du Dieu vivant? Lorsqu'il n'écoute plus la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu ne lui dit plus rien. Et quand la parole de Dieu ne nous dit plus rien, ce qui nous amène à la discipline, à la conversion, la parole qui est l'épée de l'esprit, ce qui peut nous circoncire le cœur, lorsque ça ne nous dit plus rien, lorsqu'on n'écoute plus la parole, ça ne nous dit plus rien, on n'a plus sa valeur en nous, alors on s'est détourné du Dieu vivant. Donc si tu es là, peut-être que tu as été baptisé à 5 ans, 6 ans, et la parole de Dieu ne te dit plus rien, ça veut dire que tu es déjà loin du Seigneur. Ta bouche peut dire, mais ton cœur est loin. C'est quoi le Seigneur disait souvent à son peuple? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si la parole de Dieu ne te dit plus rien, si ça ne fait aucun effet sur ta vie, ah mon frère, examine-toi. Quand tu viens maintenant au temple, ah, on enseigne la parole, dit, donc à faire vite, on va partir, ouais. Donc à faire vite, on va partir. Ah, c'est la même chose. Ça, c'est pas un message qu'on a donné en 1992. Mais est-ce que tu as mis en pratique ça, là? Est-ce que tu as mis ça en pratique? C'est justement parce que tu ne l'as pas mis en pratique que Dieu continue de te prêcher. Et tant que tu ne te seras pas repenti, Dieu continuera de te prêcher. Et même jusqu'au-delà du tombeau, les anges continueront à te dire. Oui, c'est ça. Donc, à quel moment on peut dire que quelqu'un s'est détourné de la parole, de Dieu vivant? Au moment où la parole ne dit plus rien. Regardez, il y a des peuples par qui la parole a commencé. Mais ça ne leur dit plus rien. Les juifs ont négligé la parole, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé? La déchéance. L'Europe a reçu la parole. La parole ne leur a rien dit. Ils ont préféré la gloire humaine et ils ont persécuté ceux qui aimaient la parole. On les a brûlés, on les a tués. Et qu'est-ce que est devenu l'Europe aujourd'hui? C'est fini. Dans les temples, c'est les oiseaux qui vont là. Les temples sont vides. C'est les vieillards qui ont encore le souvenir. C'est à l'université de Paris. Il y a eu discussion sur la Bible. Les premières controverses là. L'université de Paris a commencé. Pour dire en tout cas, le clergé est devenu autre chose. C'est des laïcs, des étudiants et des professeurs d'université qui ont dit non, maintenant on a laissé la Bible. Et ça a été le départ de la réforme. Mais aujourd'hui, ils ont laissé la Bible. Ils ont choisi Voltaire, l'athéisme et l'Europe est gâtée, c'est fini. Quand vous leur parlez de Dieu, où est Dieu? Où il est? Si vous le trouvez, dites-nous. Ils sont loin. Ils sont très loin. La parole de Dieu ne leur dit plus rien. Ils ont remplacé la parole de Dieu maintenant avec la morale. C'est ce qu'on appelle la nouvelle morale. Ils disent qu'ils peuvent faire eux-mêmes leur propre loi. Mais la loi de l'homme est caduque. Est-ce qu'on n'a pas le tribunal à Abidjan? C'est pas rempli de loi. Mais est-ce que la prison n'est pas remplie? La loi peut changer quelqu'un? Jamais. Au contraire, la loi peut peut-être empêcher, donner la crainte, mais la loi ne peut pas transformer le cœur d'un homme. C'est la parole de Dieu qui peut transformer l'âme de l'homme. Et si nous négligeons cette parole, c'est fini. Il y aura aussi, dans cette période où nous attendons la deuxième venue, le choix délibéré des œuvres des ténèbres. Les gens vont choisir délibérément le mal, le péché. Ils vont appeler mal bien et ils vont appeler bien mal. Mal bien, bien mal. De nos jours, ceux qui font le bien, on les appelle les abrutis, les faiblards. Et ceux qui font le mal, on les appelle, ça c'est les braves, ils sont bons. J'étais en Europe tout dernièrement, et puis, il y a un professeur qui est devenu femme, parce qu'il y a les transsexuels là-bas. Des hommes qui sont devenus femmes, les femmes qui sont devenues hommes. Je ne parle pas d'homosexualité, hein. Ça c'est une autre catégorie. Mais là, c'est les transsexués. Vous allez trouver des chauffeurs de taxi à Berlin, c'est des femmes qui ont la barbe, c'est des femmes devenues hommes. Et puis, le professeur là, il est devenu femme. Il a changé son nom. Et il envoie son dossier au gouvernement français. Et quand même, il y a des gens, moralement, qui sont quand même bien. Ils ont examiné, ils ont dit non, on ne peut pas accepter ça dans notre pays. C'est un mauvais exemple. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris son dossier et il a envoyé à la communauté européenne, à Bruxelles. Il a déposé plainte contre son gouvernement pour dire pourquoi on ne veut pas changer. Je suis libre. Moi, je suis libre. Donc, je suis libre de changer mon sexe. C'est la démocratie. Et la communauté qui a son siège à Bruxelles a demandé à la France de changer son papier. C'est son droit. Est-ce que c'est bien? C'est-à-dire, on appelle de nos jours bien mal et on appelle mal bien. Tout ce qui est mauvais là, on dit c'est bien. Et ceux qui veulent faire le bien, on dit vous êtes faux. Vous allez voir devant des maires. Monsieur Jean-Paul, veux-tu prendre pour époux Monsieur Gabriel? Il dit oui. Et quand on dit c'est mauvais, il dit mais comment, c'est notre droit. C'est notre droit. C'est la démocratie. Vous voyez ça? C'est la démocratie. Est-ce que démocratie veut dire licence? Veut dire immoralité? Désordre? Il y a une loi actuellement qui est votée aux États-Unis qui dit un père qui se dit chrétien, qui évangélise son enfant, l'enfant peut déposer plainte contre lui pour lavage de cerveau. Pourtant, dans la Bible, il dit « Éduque ton enfant selon la parole de l'Éternel et quand il sera grand, il se conduira d'après la parole du Seigneur et il aura le droit chemin. » Mais si on ne peut pas enseigner, et là-bas c'est ça, l'enfant est patron sur le père ne peut rien dire. Si jamais le père fait quelque chose, il corrige même son enfant, il peut appeler la police et la police met son père en prison. Donc les parents ont peur de leurs enfants au point que la jeunesse américaine est livrée au péché, au mal. Vous allez voir des étudiants qui vont à l'université avec les slips devant le professeur. C'est son droit. C'est son droit. Est-ce que les mêmes choses n'arrivent pas ici? Les mêmes choses arrivent ici. Des bêtises. La musique qui est en train de détruire la jeunesse. Vous allez voir une jeune fille devant son père qui danse, qui remue les fesses. Ce qu'on ne faisait pas avant là. Elle peut faire tous les mouvements devant son papa. Et le père là, il regarde. Il rit. Il rit. Où allons-nous? Où allons-nous? Tu vas voir de ces habillements immoraux. Pourtant, il y a une loi qui condamne atteinte à la pudeur publique. Vrai ou faux? Est-ce qu'il n'y a pas une loi? Atteinte à la pudeur publique, c'est quoi? C'est l'impudicité corporelle. Mais dans nos rues même, à Abidjan, même dans les villages, vous allez voir des femmes nues, des pantalons serrés jusqu'à on voit tout ce qu'elles veulent cacher là. C'est ça qui est dehors. Et la loi ne dit rien. On dit, oh, c'est leur liberté. Et après, on dit lutter contre le sida. Pour lutter contre le sida, il faut lutter contre l'impudicité d'abord. Et il faut permettre que l'évangile soit vraiment prêché d'abord. Il faut que les églises prêchent, accomplissent la mission de Jésus-Christ d'abord. C'est clair. Et la plupart de ceux qui votent les lois sont dans les églises. Ils sont là, ils écoutent ça. Mais la parole de Dieu ne leur dit rien. D'autres sont juges, d'autres sont députés, c'est eux qui votent les lois. Mais la parole de Dieu ne leur dit rien. Ils sont très loin de Dieu. C'est dans cet état-là que nous attendons la deuxième venue de Jésus. C'est pourquoi le retour de Jésus sera un retour de jugement. La première fois, il est venu avec la compassion dans les yeux. Avec les larmes dans les yeux, en aidant, en soulageant, en ressuscitant, en libérant. Mais sa deuxième venue, la Bible dit que ses yeux sont comme du feu contre l'humanité. C'est pourquoi nous devions avertir. Nous devions prêcher sans crainte. Nous devons arracher les hommes et les femmes de la main du diable. Sans crainte. Que les chrétiens vivent la vie chrétienne normale. C'est ça l'accomplissement de la mission de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Il y aura aussi la négligence du salut de la part de ceux qui sont sauvés. Il y en a qui vont négliger leur salut. Et l'évangélisation, la mission de Christ consiste à réveiller ceux-là, à leur montrer leur état. Ils ont abandonné leur premier amour. Ils doivent se revêtir de l'armure de Dieu. Ils doivent se réveiller. Ça aussi, ça fait partie de la mission de Jésus-Christ pour attendre son deuxième retour. On doit leur montrer comment échapper le jugement qui vient. Il y a vraiment un jugement. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Mais comment échapper le jugement? Nous devions leur montrer. Tous les passages bibliques sont là. Troisième point, comment échapper au jugement? Il faut les amener à croire en Jésus-Christ. Que veut dire croire? Obéir à qui? À Jésus. Mais comment on obéit à Jésus? En obéissant à l'évangile. Celui qui n'obéit pas à la parole ne croit pas en Jésus. Il faut les amener à croire. C'est écrit dans tous ces passages que vous voyez là. Jean 6, 40, Jean 5, 24, Jean 6, 47, Romains 5, 1. Tout ça, ça a trait à la foi en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Celui qui a le Christ a la vie. On leur dit d'avoir Christ, c'est-à-dire d'accepter la parole de Christ et de vivre conformément à cette parole. Alors, ils seront sauvés. Voilà, il faut leur montrer cela. Il faut les amener à venir à Jésus et à marcher dans la lumière divine. Comme il est dit dans Jean 3, 21, Jean 8, 12, Romains 8, 1 et tant d'autres passages que la Bible révèle. Il faut les amener à une foi qui honore. Parce que beaucoup disent, on croit. D'autres même récitent, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ils ne savent rien comprendre. Il faut une foi qui honore Dieu. La foi qui honore Dieu, c'est la foi qui obéit à sa parole. Croire, c'est obéir. C'est demeurer dans l'obéissance. C'est pourquoi ne vous laissez pas influencer par des idolâtres de ce monde qui vous intimident. Oh, tu obéis trop, c'est trop. Je dois obéir trop. Parce que le Seigneur l'a dit. Si mon obéissance ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, je n'entrerai point dans son règne. C'est clair. Les pharisiens étaient très fanatiques. Ils étaient fanatiques. On les jugeait même de fanatiques. Les scribes étaient fanatiques sur la parole. Ils ont gardé la parole avec jalousie. Et le Seigneur Jésus dit à son église, si vous aussi, votre justice, votre foi là, l'obéissance en moi, qui vous a rendu juste en moi, ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Si tu obéis à la parole, qu'on peut te traiter de fanatique, c'est bon, ça vaut mieux. Il faut même exagérer l'obéissance, c'est mieux. Est-ce que c'est clair? Il faut croire simplement, obéir simplement, sans raisonnement. Il est dit dans 1 Jean, je vous lis ce passage.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit.
Est-ce que vous avez bien compris? Hein? Nous avons l'assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon nous, notre volonté, c'est ça? Non, selon sa volonté, alors Dieu nous écoute. Ça ne s'arrête pas là. Mais si nous savons qu'il nous écoute, alors, parce que là, la foi rentre en jeu. D'abord, il faut demander quelque chose selon sa volonté. Quelque chose qui va glorifier son nom. N'est-ce pas? Si tu dis, par exemple, Dieu, la femme de mon frère, prospère, très jolie, je voudrais la voir. Est-ce que Dieu va t'écouter? Est-ce que ça honore Dieu? Satan peut t'écouter pour te donner tous les plans pour arracher à ton frère sa femme. Mais ce n'est pas Dieu. Mais si tu demandes quelque chose qui est conforme à sa volonté, quelque chose que sa parole approuve, alors tu dois être maintenant sûr qu'il t'écoute. Et si tu es sûr qu'il t'écoute, alors tu as la chose que tu as demandé, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est clair? Donc, soyons sûrs que nos prières sont exaucées. Il faut obéir et te soumettre à toute sa parole. L'obéissance étant le test suprême de la foi en Dieu. Le test suprême de la foi en Dieu, c'est l'obéissance. Celui qui dit qu'il croit en Dieu, qui n'obéit pas, il ment. C'est pourquoi la foi, c'est l'obéissance. Donc, la mission de Jésus-Christ, c'est tout cela en vue de nous amener à la foi qui est l'obéissance à Dieu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est cette mission-là que nous devions accomplir. Qui est prêt à accomplir la mission de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez maintenant compris la mission de Jésus?
Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière.
99.8, votre FM.
À l'instant, dans Parole révélée, révérend docteur Dion Yaye Robert a rappelé la mission de Christ parmi les hommes. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à appeler au 583-586-64. Email info au pluriel @radiochandelier.net. Parole révélée, c'est la révélation de Dieu pour votre vie, disponible le mercredi, jeudi et vendredi, 6h30, 21h sur Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. Que la grâce de Dieu repose sur vous.